Aujourd'hui, je vais vous faire attendre encore un petit peu. Je vous avais dit, lors de la première conférence, on avait vu plusieurs choses. On avait abordé surtout des thèmes généraux. Est-ce que c'est pas trop fort, ça va? Bien. Nous avions abordé des thèmes généraux. C'était une conférence assez large pour annoncer ce qui se passerait. Et ce qui, c'était un conditionnel encore à l'époque. Maintenant, eh bien, ça a quand même atterri. Alors, j'étais resté quand même assez dans le vague. Nous avions abordé, en gros, les principes de l'éducation. Si vous vous souvenez bien, nous avions parlé du péché originel, avec toutes ses conséquences, conséquences funestes pour la nature humaine, d'une part, nature humaine déchue, blessée dans ses facultés, l'intelligence, la volonté, les facultés inférieures, donc qui était attirée vers ce qui est terrestre et non pas vers ce qui est céleste. C'était un des principes un peu dont on devait tenir compte pour l'éducation. Un autre principe quand même qui était plus beau, c'était celui de la grâce. Mais on avait parcouru rapidement le problème de la grâce. Dans une deuxième partie, nous avions essayé de chercher à comprendre ce qu'était l'œuvre d'éducation elle-même, avec l'enjeu qui s'ensuivait, donc le salut et la gloire de l'État. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein, on doit reprendre, pas nous, mais pour le bon Dieu, on doit reprendre la société. On doit convertir la société à partir de la base, de la cellule de base de la société, qu'est la famille. Et ça, c'est vous. Il y a une très belle conférence de Monseigneur, si on devrait l'écouter très souvent. C'est la conférence de 1979, quand il était à Paris pour le jubilé. Les exhortations qu'il lançait aux fidèles étaient extraordinaires. On a tout à refaire, mais on a tout dans les mains pour le refaire. On a la grâce, on a la bonté du bon Dieu, on a les sacrements, on a tous les moyens pour reprendre en main une société qui est apostate. Alors, il faut les prendre en main. Nous avions vu également qu'il y avait des obstacles à cette œuvre de l'éducation, le monde moderne avec son indépendance, la civilisation des loisirs, le matérialisme, toutes ces choses sur lesquelles nous reviendrons plus tard, mais pas aujourd'hui. Et puis enfin, la dernière partie de la première conférence, c'était ce qu'il convenait de faire pour mener à bien notre volonté de tout restaurer dans le Christ. C'était restaurer une vie foncièrement catholique dans la maison, dans le foyer, autour du Sacré-Cœur, autour du cœur immaculé de Marie. Et si vous vous souvenez, nous avions terminé par une citation d'un personnage de notre pays, le chanoine Chorderey, qui était une âme de feu, une âme d'apôtre. Il avait fait beaucoup par l'apostolat de la presse. Il avait fondé l'œuvre Saint-Paul, si vous vous en souvenez. Voici ce qu'il disait: l'heure de la peur est passée. Il ne faut plus avoir peur. Il faut que les catholiques se sentent forts sous l'orage. Aujourd'hui, c'est aussi un orage. Il faut que les catholiques se sentent forts sous l'orage. Il faut qu'ils prennent conscience que leur foi est invincible. Invincible. Il faut qu'ils serrent les rangs, qu'ils tiennent bon coude à coude. C'est la première tâche. Et c'est une belle tâche. Alors nous allons voir aujourd'hui un petit peu plus en détail ce que nous avons avec nous pour mener à bien cette tâche, la grâce du mariage, qui bien souvent, enfin, je ne sais pas, mais Monseigneur le disait, alors je le dis à sa suite, moi, qui bien souvent est oubliée, est laissée un petit peu pour compte, tombe en friche. Bien sûr, on se souvient que un jour, on était à l'église pour recevoir le sacrement de mariage, les épouses se sont donné le sacrement de mariage, vous vous êtes donné le sacrement de mariage, il y a eu la bénédiction du prêtre, et puis, parfois, on oublie que cette grâce, elle nous poursuit, elle ne nous lâche pas. Nous autres, peut-être qu'on l'oublie, mais cette grâce est toujours présente. La grâce du mariage, de l'état de mariage, est toujours présente. Elle ne demande qu'une chose, c'est d'être vivifiée. Alors, c'est ce que nous allons essayer de comprendre un petit peu mieux aujourd'hui. Je ferai pas mal de citations du magistère, en particulier le pape Pie XII, qui a fait beaucoup, beaucoup pour les jeunes époux. Il a écrit des choses admirables, vous verrez tout à l'heure, sur les tâches d'une famille. Mais j'ouvre ici une petite parenthèse quand même, je crois qu'il n'est pas, qui n'est pas mauvais de d'ouvrir ces conférences, enfin la série de conférences que nous ferons, ce ne sont pas, et n'ont pas pour but de donner des recettes miracles. Vous ne sortirez pas des conférences en disant, voilà, on va appliquer exactement ce qu'il a dit, voilà, pour tous les cas, pour tous les enfants, pour chacun des enfants, on va faire exactement la même chose, hop, on aura des saints. On aura tout de suite réussi dans l'œuvre de l'éducation. Si vous êtes venu dans cette disposition, peut-être que je vous fais tomber dans la désillusion, mais ça n'est pas le cas. Mais vous le savez déjà. Enfin, j'enfonce peut-être des portes ouvertes. Non, il n'y a pas de méthode univoque dans l'éducation. Chaque enfant a une âme, chaque enfant est une personne totalement différente des autres. Vous le voyez assez, les caractères qu'on peut rencontrer dans une famille. Il y en a un qui est nerveux, il y a l'autre qui est lymphatique, il y en a un qui... Enfin, tout ce que l'on veut. Paresseux, qui n'écoute pas, désobéissant, polisson, tout ce que l'on veut, tout ce que l'on veut. Et oui, ça se rencontre. Donc, il n'y a pas de recette à appliquer à chaque enfant, recette semblable pour chaque enfant. Non, il n'y a pas de remède miracle à l'éducation. Par contre, je veux quand même vous rassurer, il y a ces principes. Les principes qui, eux, ne changent pas. Principes immuables qui sont, on peut dire, l'application de ce que le bon Dieu veut, de la providence divine sur l'âme de ses enfants. Principes qui sont aussi immuables que Dieu est immuable. Parce que le premier éducateur, c'est Dieu. Le premier éducateur, c'est notre Père qui est au ciel. Et c'est lui qui a en lui toutes les règles, tous les principes de l'éducation. Alors ici, eh bien, je vous exhorte à profiter peut-être du temps de carême pour essayer de comprendre, toujours mieux d'approfondir ce que sont ces principes que l'on va voir, ce que sont ces principes pour ensuite pouvoir les appliquer aux différents cas concrets. Si vous avez un petit qui est nerveux, qui n'écoute pas, qui tape du pied, qui ne veut pas manger, il faudra savoir comment appliquer les principes de la bonne, de la saine éducation, de la sainte éducation. Il faudra avoir de la patience, il ne faudra pas être cassant tout de suite, il faudra l'amener un petit peu, le guider, le redresser, le détordre, tout. Mais ceci à la lumière des principes. Les principes ne concèdent rien. Non, ils sont fermes les principes. Ils sont stables les principes. Par contre, l'application, elle, demande le temps. On ne peut pas, du premier coup, un enfant de 2 ans avoir tout de suite un enfant qui vous suit au doigt et à l'œil. Il y aura toujours des petits écarts. Il faut prendre le temps. Et c'est ici que les principes rencontrent, donc ces principes qui sont en Dieu, ces principes de l'éducation que nous connaissons, plus ou moins vaguement, rencontrent l'application particulière, rencontrent le temps. Alors là, chers parents, il faut vous souvenir d'une maxime qui est extrêmement importante. La première, c'est que la sainteté est une longue patience jusqu'à la fin de notre vie. La sainteté est une longue patience. Donc la sainteté de vos enfants, qui est le but de l'éducation, est une longue patience. Et puis le deuxième principe aussi, c'est un principe simplement naturel, mais qui vaut très bien pour l'ordre surnaturel, c'est que ce qui se fait avec le temps ne le détruit pas. Ce qui se fait avec le temps ne le détruit pas. Alors il faudra prendre le temps. Et comme on œuvre pour l'éternité, on a tout le temps. Bien, alors quels sont ces principes? On les avait énoncés de manière, je l'ai dit tout à l'heure un peu rapide, la dernière fois, il y a la nature. Nous avons une nature, corps et âme. Il y a le péché originel qui est venu blesser cette nature et il y a la grâce. Donc, trois choses qui sont absolument nécessaires d'avoir toujours devant les yeux pour mener à bien l'éducation. Un petit enfant, c'est un enfant qui est blessé par le péché originel. C'est pas un petit ange, c'est pas un petit chérubin. Si, quand ils sont au berceau, oui. Mais déjà très tôt, très tôt, très tôt, ils manifestent des petits caprices. Très tôt, ils savent comment faire marcher papa et maman. Ils pleurent, ils crient, ils gémissent. Mon pauvre petit chou. Et voilà. Non, alors il est très important de tenir compte tous les jours de ces trois réalités incontournables. Le péché originel, notre nature humaine et la grâce. Voilà, alors venons-en à cette grâce Grâce qui est très belle, une grâce tout à fait particulière, qui est une, en quelque sorte, pour ainsi dire, une certaine modalité de la grâce, une certaine augmentation de la grâce sanctifiante que nous avons tous reçue au baptême, bien sûr, mais grâce du mariage qui nous fait participer à quelque chose de tout à fait particulier que l'on appelle le gouvernement divin. Le bon Dieu ne gouverne pas le monde, si on peut dire, directement. Non, il a placé des intermédiaires. Pour amener les âmes à leur fin éternelle, il a placé des intermédiaires. Les premiers intermédiaires de cette grâce, ce sont les prêtres, les évêques, le pape, donc toute la hiérarchie de l'Église, bien sûr, qui sont d'autres Christ sur terre et qui ont pour but de faire le pont entre le ciel et la terre. Et puis, les autres instruments de ce gouvernement divin, eh bien, ce sont les parents. Les parents. Donc, vous participez, le bon Dieu vous délègue une charge incroyable. Lui-même, Dieu, vous remet dans les mains des trésors qu'il faut conduire jusqu'au ciel. Alors nous verrons ceci en deux parties. Tout d'abord, de manière plus générale, l'ordre de la grâce du sacrement de mariage, et puis, de manière plus particulière, la participation au gouvernement divin. Je vous ai dit que je citerai beaucoup de textes, parce que je crois qu'on n'a rien à inventer. Ce n'est pas la peine d'inventer. Ceux qui nous ont devancés, c'est ça la tradition, ceux qui nous ont devancés ont dit les choses bien mieux que nous, ils l'ont pensé bien mieux que nous, ils ont eu l'expérience bien plus que nous l'avons. Alors voici un petit peu quelques textes qui sont admirables. Tout d'abord un texte de Don de Montléon. Vous en avez certainement entendu parler. C'était un moine bénédictin qui a fait beaucoup de commentaires de l'Écriture sainte et qui a fait un commentaire en particulier sur les noces de Cana. Sur les noces de Cana où notre Seigneur est venu sanctifier le mariage. Voici ce qu'il dit. Il parle tout d'abord de l'ancienneté et de la dignité du mariage. Vous verrez, c'est surprenant. C'est surprenant et ça nous commence à nous faire toucher du doigt l'importance pour la société civile et pour l'Église de l'institution du mariage, qui, sous l'ancienne loi, n'était pas sacrement encore, mais qui a été élevé à la dignité de sacrement par notre Seigneur. Cette bénédiction du mariage, dit-il, est la seule pour les époux qui n'ait été abolie ni par le péché originel, ni par le déluge. C'est déjà extraordinaire. C'est la seule bénédiction qui n'ait été abolie ni par le péché originel, ni par le déluge. Elle a rendu légitime dans tous les temps l'union de l'époux et de l'épouse. Elle a assuré à travers les siècles et sous toutes les latitudes l'unité, la stabilité, la force de la famille et par elle de la société humaine. Mais si Jésus-Christ n'a pas fondé cette institution, il l'a enrichie des grâces les plus précieuses. Il en a fait un des sept sacrements de la Nouvelle Alliance, l'un des sept canaux par lesquels il dispense continuellement sur le monde des âmes, le trésor infini des mérites qu'il a acquis au prix de son sang. Ensuite, Don de Montléon parle du but du mariage, de la fin ultime du mariage. Et si nous prenions soin de méditer ces paroles, je crois que ça pourrait changer beaucoup de choses dans notre vie quotidienne. Si nous revenions tous les jours, toutes les semaines, à ces réalités, je crois qu'on ferait vraiment des familles pleinement, totalement catholiques, des cénacles du bon Dieu, comme on l'avait dit dans la première conférence, des temples où se trouve ce que le bon Dieu a choisi pour lui. On n'aura pas de peine à comprendre l'importance du mariage si l'on songe que c'est sur lui que repose non pas seulement le développement du genre humain, mais bien plus. Le recrutement de la cité de Dieu. Le recrutement de la cité de Dieu. Son but dernier n'est pas de peupler la terre, c'est d'assurer au ciel le complément du nombre des élus. C'est extraordinaire ça. Assurer au ciel le complément du nombre des élus. Ainsi, lorsqu'un enfant meurt en bas âge, ses parents doivent-ils trouver une consolation légitime à la douleur que leur cause cette perte, dans la certitude que grâce à eux, il y a au ciel un nouveau bienheureux. Il y a dans les hiérarchies célestes une voix de plus qui chante la gloire de Dieu, un nouveau miroir où se reflète son infinie beauté, un cœur de plus qui s'est embrasé d'amour pour lui. Nous comprenons dès lors pourquoi saint Paul appelle le mariage un grand sacrement, sacramentum hoc magnum est. C'est le bon Dieu qui le dit à travers saint Paul, qui dit que le mariage est un grand sacrement. Mais il va plus loin même. Il se réfère à la valeur mystique du mariage. Cependant, dit-il, il est plus grand, beaucoup plus grand encore par sa valeur mystique, par sa signification symbolique, que par sa réalité même. L'union qu'il consacre en effet entre l'homme et la femme est la figure de celle que Dieu a voulu établir entre le Verbe et la nature humaine, entre le Christ et son Église, et surtout entre lui et l'âme de chacun de nous. Ce sont des choses simples en fait, mais tellement belles et tellement profondes. Un couple, une famille qui médite de plus en plus ces réalités, à la fin, on peut les canoniser. C'est vrai. C'est pas moi qui le dis, c'est plus tard, ce sera le pape Pie XII. Eh oui. Nous pouvons également écouter un saint prélat, un saint évêque, qui a fait beaucoup de sermons sur les commandements de Dieu, sur le credo, sur l'éducation aussi. Monseigneur Tiamertot, il prononçait ses paroles dans l'église de l'université de Budapest. Il parle ici du mariage et des autres sacrements, en particulier de l'Eucharistie et puis du sacrement de l'ordre. Le sacrement de mariage peut être envisagé à deux points de vue, tel qu'il est et tel qu'il devient. Ce sacrement, en effet, ressemble au sacrement de l'Eucharistie, en ce sens qu'il n'est pas seulement sacrement au moment où il est réalisé, mais qu'il continue à le rester. En effet, tant que les époux sont en vie, leur union demeure le signe mystique de la grâce du Christ et de l'Église. Il reprend ici des paroles de saint Robert Bellarmin. Puis, avec saint Augustin, il dit que le mariage indique une responsabilité plus grande encore. Car selon lui, le sacrement de mariage a un effet analogue à celui du sacrement de l'ordre. Attention, je ne dis pas que le sacerdoce des laïcs est le même que le sacerdoce des prêtres. Je pense que vous êtes assez au clair sur cette question. Le sacerdoce des laïcs n'a rien à voir avec un sacerdoce ministériel. C'est simplement la participation aussi au sacrifice de notre Seigneur. Mais ça n'a rien à voir avec la mission que Dieu envoie. Comme c'est tellement bafoué à l'heure actuelle, il est bon toujours de le rappeler et de le savoir. Il a quand même un effet analogue au sacrement de l'ordre, en donnant à l'homme et à la femme une sainte force particulière qui ne peut plus leur être enlevée. C'est pourquoi nous devons dire au sens figuré que par le mariage, l'homme et la femme deviennent des ministres sacrés de qui Dieu attend l'accomplissement d'immenses obligations. Vous êtes des ministres sacrés de qui le bon Dieu attend l'accomplissement d'immenses obligations. D'obligations à la fois graves, à la fois très sérieuses, très importantes, puisque c'est une obligation d'éternité par rapport à ses petites âmes et par rapport aux vôtres. Et puis obligations à la fois enthousiasmantes, extraordinaires, de par ce que l'on verra tout à l'heure, cette délégation que vous fait Dieu du gouvernement de ses enfants. Ensuite, Mgr Tiamertot parle plus particulièrement de la grâce, de ce don précieux de la grâce. Ce sont des textes qui se recoupent un petit peu, mais qui ont chaque fois une particularité différente. C'est pourquoi je me permets de les les cités. Il est vrai, dit-il, que le mariage leur donne une aide puissante, que le bon Dieu, pardon, leur donne une aide puissante pour remplir cette tâche. Seulement, ce n'est pas automatique. Seulement, il faut qu'il y ait dans les époux une disposition à coopérer à la grâce du sacrement. Dieu dépose toujours au moment de leur mariage ce don précieux dans l'âme des époux. Et il dépend d'eux d'utiliser, de garder et de faire fructifier ce trésor. Ah, bien sûr, il faut. C'est comme dans un jardin. Si on plante, ça ne suffit pas. Il faut arroser, il faut enlever les mauvaises herbes, il faut revenir un petit peu. Il faut prendre soin d'un jardin. Le jardin de notre âme, il faut en prendre soin. Le jardin de la grâce sacramentelle du mariage, il faut en prendre soin. Il faut le renouveler, souvent, comme le disait Monseigneur, souvent par la participation commune autant que possible à la Sainte Messe, au Saint Sacrifice. Arrosez vos âmes au sang de l'agneau. C'est ce qui fera croître votre grâce de mariage. Malheureusement, dit-il, même les époux chrétiens oublient facilement que si le mariage est un sacrement, il donne aussi la grâce. Et oui, tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, chaque fois qu'un enfant crie, chaque fois qu'il y a le lait qui a débordé. Mais oui, ce sont des petites choses qui font la vie courante, mais qui souvent font que les pauvres mamans sont elles aussi débordées, mais d'une autre manière. Les sacrements, en effet, produisent dans notre âme la grâce sanctifiante, comme par exemple le baptême et la pénitence, ou bien l'augmentent, comme les cinq autres sacrements. Lorsque les époux prononcent devant l'autel leur serment de mariage et se donnent ainsi mutuellement le sacrement de mariage, ils augmentent en eux la grâce sanctifiante que notre Seigneur a comparée à la robe nuptiale. Mais outre l'agrandissement, l'accroissement de cette grâce sanctifiante, ils reçoivent encore des grâces spéciales. Ils ont droit à l'aide divine pour pouvoir satisfaire à leurs obligations conjugales. Aussi l'Église crie-t-elle fermement dans le monde. Elle criera tant que l'humanité ne l'entendra pas de nouveau. Le mariage aussi est un des sept fleuves qui déversent sur nous la grâce de la rédemption. Le mariage aussi est l'une des sept fontaines sacrées d'où jaillissent les eaux de la vie surnaturelle. Le mariage aussi est un des sept calices qui sont remplis jusqu'au bord du sang du Christ. Le mariage aussi est une des sept tables sur lesquelles le Christ sert la grâce qui fortifie la vie de l'âme. Le mariage aussi est une des sept cloches dont le son réconfortant et argentin entraîne les voyageurs sur la route de la vie éternelle. C'est très beau, ça. Ce sont des magnifiques paroles qu'avait Mgr Tiamertot. Alors vous voyez déjà que cette grâce du mariage vous conforme, par la signification qu'elle a, vous conforme à ce que nous disions tout à l'heure, à cette union que notre Seigneur veut faire d'une part avec chaque âme, puisque notre Seigneur nous a créés pour nous unir à lui, comme on le voit dans le livre du Cantique des Cantiques, il appelle nos âmes, il veut que nos âmes deviennent siennes, deviennent ses épouses, sponsabote in fide, je t'épouserai dans la foi, il le dit à chacune de nos âmes. Alors le mariage signifie cette union de Dieu avec chaque âme. Il signifie l'union de Jésus avec l'Église. Et notre Seigneur s'était livré pour que son épouse, l'Église, le corps mystique, soit pure, soit sainte, soit immaculée, sans tache. Écoutons encore, toujours, ce que disait le magistère. C'est une anthologie, quand même, de ces textes magnifiques que nous donne l'Église, que nous donne le bon Dieu à travers l'enseignement constant de l'Église. Je prendrai tout d'abord un texte du pape Pie XII, texte qu'il faisait, un discours qu'il faisait aux jeunes époux en 1939. Nous désirons vous rappeler un enseignement du catéchisme. La famille chrétienne est fondée sur un sacrement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'un contrat. Le mariage est un contrat. Mais il ne s'agit pas simplement de cela. Il ne s'agit pas simplement d'une cérémonie ou d'un appareil extérieur destiné à marquer une date importante de la vie. Au contraire, il y a là, au sens vrai et propre du mot, un acte religieux de la vie surnaturelle, d'où découle un droit permanent d'obtenir de Dieu toutes les grâces. Un droit permanent, il faut croire à la grâce. Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, disait sans cesse « tout est grâce ». Et il faut vraiment croire totalement, avoir une confiance infinie dans la grâce. Mon Dieu est toujours là pour nous donner la grâce. Et pour vous, justement, vous avez un droit permanent d'obtenir ces grâces. D'obtenir tous les secours nécessaires et utiles pour sanctifier la vie du mariage, pour accomplir les devoirs de l'état conjugal, pour en surmonter les difficultés, en maintenir les résolutions et en atteindre l'idéal le plus élevé. Par l'élévation du mariage chrétien à la dignité de symbole permanent de l'indissoluble union du Christ et de l'Église, Dieu lui-même s'est porté garant de ses grâces. Nous pouvons, par conséquent, affirmer que la famille chrétienne, chrétienne en vérité et en fait, est une garantie de sainteté. Ça vaut la peine de répéter cette phrase. Nous pouvons par conséquent affirmer que la famille chrétienne, en vérité et en effet, donc que les parents connaissent la vérité de l'éducation, ce qu'il faut donner aux enfants, connaissent la foi, connaissent les mystères, c'est ce qu'il veut dire par en vérité, et en effet, que la famille, que les parents tout d'abord, vivent de ces vérités, vivent de ces mystères. Eh bien, si la famille est telle, elle est une garantie de sainteté. Parlant de la conversion de saint Paul, le pape Pie XII dit qu'il y a trois leçons à en tirer. Je passe sur les deux premières, j'arrive à la troisième leçon, qui est la collaboration à la grâce. Saint Paul a collaboré à la grâce. Souvenez-vous, tout à coup sur le chemin de Damas, ça devait être assez surprenant, il est terrassé par une puissante lumière. Il entend une voix, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Attention, l'analogie ne va pas là. Hein. C'est pas là qu'est l'analogie avec la conversion de saint Paul. C'est avec la réponse que dit saint Paul. « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?» Et vous savez que le bon Dieu a dit ensuite à Ananie, « Je veux lui montrer à saint Paul tout ce qu'il faudra, lui faudra souffrir pour annoncer la sainteté, pour annoncer mon évangile, la bonne nouvelle à travers le monde. » Alors c'est là qu'il y a dans cette, un grand enseignement pour vous, la collaboration de saint Paul à la grâce divine et votre collaboration à la grâce divine. Ce sont quelques mots, collaborer à la grâce divine. Parfois, on a l'occasion de collaborer avec des personnages extraordinaires, souvenons-nous de Monseigneur. Certainement, quelques-uns d'entre vous ont eu l'occasion de l'approcher de très près. C'est un insigne honneur. D'être avec celui qui, au XXe siècle, a sauvé la messe, a sauvé la doctrine catholique, a sauvé, on peut le dire, l'Église, hein, par l'opération survie, telle qu'il la définissait en 88. Eh bien, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire de pouvoir, en quelque sorte, nous trouver à côté. Mais ce n'est pas encore une collaboration, ça. La collaboration, c'était plutôt pour les prêtres. Pour nous, pour les prêtres de collaborer à la suite des évêques à l'œuvre de Dieu. Eh bien, pour chacun des prêtres, collaborer avec un tel pasteur, c'est une grâce insigne, une grâce magnifique dont on ne pourra jamais assez remercier le bon Dieu. Et pourtant, ça n'est rien. Ça n'est rien par rapport à la grâce qui nous est donnée de collaborer à l'œuvre de Dieu. Collaborer à ce que Dieu fait. Je reviens toujours sur le gouvernement divin. Collaborer au gouvernement que Dieu a sur les âmes. Ce sont des petites choses, mais qui sous-tend une telle plénitude de mystères qu'on devrait passer beaucoup de temps à les méditer, à les comprendre dans la prière. Et là, je vous exhorte fermement de tout cœur, mais revenons au texte. Voilà ce qu'il disait en continuant. Quand saint Paul se releva après le choc prodigieux reçu aux portes de Damas, il aurait pu croire que ce coup foudroyant suffirait à le transformer de persécuteur en apôtre. Mais non. Il demeura 3 jours à Damas, puis il passa et fit une retraite, pas encore de saint Ignace, une retraite de 3 ans dans le désert, et à Damas également. Alors seulement, il se rendit dans la cité sainte pour voir Pierre. Il y resta 15 jours. Il était dès lors prêt pour l'action apostolique, c'est-à-dire pour une action qui serait toujours une collaboration de sa volonté avec la grâce. Parce qu'il avait prié, parce qu'il avait fait retour sur lui pour connaître un peu mieux Dieu, il était prêt à son action apostolique. Eh bien, la famille, c'est un champ d'apostolat. Si vous voulez être prêt totalement à cette œuvre importante, capitale, il faut la prière. Il faut correspondre à la grâce par la prière. Ainsi, poursuit le pape Pie XII, ainsi, n'allez pas croire que pour assurer la persévérance dans votre vocation, c'est-à-dire dans les devoirs du mariage, ou pour garantir le bonheur de votre foyer domestique, il suffise, comme on dit, d'un coup de foudre. Non. Même dans l'ordre du sentiment naturel, l'expérience enseigne qu'une solide conformité de croyance, ferme dans la foi, solide conformité de tradition et d'aspiration, vaut plus et mieux qu'une subite émotion du cœur et de la sensibilité. Comment la grâce du sacrement de mariage pourrait-elle vivre et agir en vous si vous ne prenez soin de l'alimenter et de la cultiver assidûment? Que seront vos journées si ces journées ne sont pas consacrées à Dieu par la prière? Ne laissez pas sans réponse dans vos âmes l'intime invitation à la prière, les appels de la grâce, la voix noblement impérieuse et austère de votre devoir. Il y a encore quelques textes. Oui, je crois qu'on peut quand même vous les donner. Ce sont des textes tirés de l'encyclique de Pie XI, Divini Ilius Magistri, que je vous recommande vivement, non seulement de lire une fois, mais de méditer surtout. Lire, on oublie vite quand on lit simplement. Comme ça, il faut méditer ces textes. Alors je vous y encourage vivement. Je pense que vous les trouvez à la table de presse ici, très, très probablement. Voici ce que disait le pape Pie XI. La fin propre et immédiate de l'éducation chrétienne, catholique, est de coopérer à l'action de la grâce divine dans la formation du véritable et du parfait chrétien, c'est-à-dire à la formation du Christ lui-même dans les hommes régénérés par le baptême. Suivant l'expression saisissante de l'apôtre saint Paul qui disait à ses fidèles « Mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » C'est très beau ça. Il le dit pour vous aussi. En quelque sorte, vous devez, tout au long de la vie des petits-enfants, éprouver, surtout les mamans, mais les papas aussi, éprouver un peu ces douleurs pour enfanter les enfants à la grâce, toujours plus, toujours mieux, toujours plus profondément. Il y a des soucis qui sont inhérents, bien sûr. Eh bien, ces soucis offerts permettront de former notre Seigneur dans ces petites âmes, et par conséquent de former notre Seigneur aussi dans vos âmes, par la coopération à la grâce. Répondez à la grâce, disait toujours le pape Pie XI. Aussi, la grâce du mariage demeurera en grande partie un talent inutile, caché dans un champ, si les époux n'exercent leur force surnaturelle, et s'ils ne cultivent et ne développent les semences de la grâce qu'ils ont reçues. Mais si faisant ce qui est en eux, ils ont soin de se montrer dociles à la grâce, ils pourront porter, veuillez m'excuser, ils pourront porter les charges et remplir les devoirs de leur état. Ils seront fortifiés, sanctifiés et comme consacrés par un si grand sacrement. Car comme l'enseigne saint Augustin, de même que par le baptême et l'ordre, l'homme est appelé et aidé, soit à mener une vie chrétienne, soit à remplir le ministère sacerdotal, et que le secours de ces sacrements ne leur fera jamais défaut, de même, ou peu s'en faut, les fidèles qui ont été une fois unis par le lien du mariage ne peuvent plus jamais être privés du secours et du lien sacramentel. Si l'on considère toutes ces choses avec un esprit attentif et avec une foi vive, si l'on met dans la lumière qui convient les biens précieux du mariage, les enfants, la foi conjugale, le sacrement, personne ne pourra manquer d'admirer la sagesse et la sainteté et la bonté divine qui, dans la seule chaste et sainte union du pacte nuptial, ont pourvu si abondamment, en même temps qu'à la dignité et au bonheur des époux, à la conservation et à la propagation du genre humain. Dans le mariage, l'homme ne se conforme pas à la passion du Christ en souffrant comme lui, mais il s'y conforme par l'amour, car c'est par amour que le Christ a souffert pour s'unir à l'Église, son épouse. Et cet amour du Christ, comme le disent les Saintes Écritures, consistait dans la volonté. Il le dit lui-même, ipse voluit, lui-même a voulu se livrer pour l'Église. Alors, eh bien, cette sainteté qui vous est propre, cet amour que vous devez avoir mutuellement et pour les enfants dans l'éducation, eh bien, c'est surtout dans cette volonté qui doit devenir de plus en plus conforme à la volonté du bon Dieu. Volonté qui doit vous faire devenir de plus en plus participant à la paternité de Dieu. Votre paternité, votre maternité aussi, bien sûr, paternité, bien sûr, c'est toujours entendu dans un sens générique. Votre paternité, le fait d'être papa ou maman, participe de la paternité de Dieu. De celui, comme dit Tertullien, de celui qui ne trouve personne qui soit aussi bon que lui. Nemo tam pater, personne n'est aussi père que lui. Personne n'est aussi bon que lui. Eh bien, vous participez à cette paternité. Par la grâce du mariage. Ce n'est pas une petite chose. Ça implique de grands devoirs, de grandes grâces, et aussi quelques soucis, comme le bon Dieu en a avec nous. Voilà donc, cette grâce vous rend participant du gouvernement divin. Non seulement vous devez développer le genre humain, mais vous devez combler les rangs du ciel. Vous devez assurer le recrutement pour la cité céleste. Sur vous, sur chacune de vos familles, repose ce plan divin. Lorsque Dieu, au début de la création, lorsqu'il a créé les anges, lorsqu'il a créé l'humanité, lorsque Dieu s'est entendu dire de la part des anges apostats « je ne servirai pas », il pensait déjà à vous. Il pensait déjà à tous les parents catholiques qui viendraient lui donner des âmes pour remplacer tous ces anges apostats. C'est ce que disent les pères, c'est très beau. Remplacer ces rangs, combler ces rangs laissés vides par ceux qui ont dit non. Alors, pour vous, dans le mariage, il faut continuer à répéter le grand oui, le fiat, le amen, amen à la volonté de Dieu. Et ainsi, eh bien, vous ferez toute la volonté du bon Dieu. Saint Cyril d'Alexandrie, en commentant une épître, la deuxième épître de Saint Jean, disait ces paroles très belles. Il parle également, c'est un passage sur les noces de Cana. Quand on célébrait les noces en toute chasteté et honneur, la mère du Sauveur était présente. Il vint aussi avec ses disciples, non pas tant pour prendre part au festin, que pour faire un miracle et sanctifier le principe de la génération charnelle de l'homme. Il convenait en effet que celui, notre Seigneur, que celui qui devait renouveler la nature humaine et l'élever à un état plus parfait, non seulement accorda sa bénédiction à ceux qui étaient déjà au monde, mais qu'il prépara sa grâce à ceux-là même qui devaient naître dans la suite et sanctifia d'avance leur naissance. Donc nous sommes précédés par la grâce. La grâce nous accompagne et la grâce nous poursuit. Vraiment, tout est grâce. Ce que disait sainte Thérèse s'applique de manière parfaite à notre vie. La grâce nous précède pour nous appeler. Lorsque nous répondons oui, la grâce est présente quand on dit le oui. Et ensuite, tout au long, elle nous accompagne. Sur vous, alors, repose le plan divin. Mais il faut essayer de voir de manière plus particulière ce qu'est ce plan divin. Vous avez, comme on l'a dit tout à l'heure, à donner des âmes au bon Dieu, mais plus encore. Peut-être certains d'entre vous, la famille en tout cas, était créée par le bon Dieu pour donner à l'Église aussi des vocations religieuses et sacerdotales. Ce qu'il faisait dire à la maman de Saint-Pidis, une fois lorsqu'elle se trouvait avec son fils qui était élevé au souverain pontificat et qui lui montrait l'anneau de vicaire du Christ sur la terre, de lieutenant du Christ sur la terre. Alors, il lui montrait son anneau et sa maman lui montre le sien. Lui montre le sien. Et lui dit, tu n'aurais pas celui-là si je n'avais pas celui-ci. C'est beau ça. Eh oui. Tu n'aurais pas cet anneau de vicaire du Christ si je n'avais pas mon anneau de mariage. Ça veut dire que quelques-uns d'entre vous, il faut le souhaiter, beaucoup d'entre vous, seront appelés peut-être à voir certains de leurs enfants combler les rangs des prêtres. Peut-être, je ne sais pas. Ou bien donner à l'Église, au corps mystique, des religieux et des religieuses. C'est très beau. C'est très beau. Ici, je vais quand même faire une petite parenthèse. Il faut en faire de temps en temps. Je vais préciser une évidence. Si ça peut être précisé. Je le fais quand même. Je suis pour les vocations. Eh oui. On en a besoin en Suisse. Hein? En parenthèse, c'est le... Je prêche pour ma paroisse. Mais je suis pour les vocations et à la seule condition qu'elles soient voulues par le bon Dieu. Et non pas par papa et maman. Ce que je veux dire par là, c'est quelque chose d'important, parce que, oui, on peut avoir le désir légitime d'avoir des enfants qui se consacrent au bon Dieu. On peut l'avoir, ce désir légitime. Mais je vous en supplie, ne l'insinuez pas aux enfants. Ne lui dites pas, ne lui demandez pas s'il n'a pas vraiment la vocation, s'il ne veut pas devenir un prêtre. Regarde comme c'est beau. Regarde comme c'est magnifique, tu ne veux pas vraiment devenir prêtre. Et on assène un petit peu aux enfants cette idée qu'ils doivent devenir prêtres, qu'il faut qu'ils deviennent prêtres, de telle manière qu'ensuite ça fera un obstacle à l'enfant de ne pas rentrer au séminaire. Qu'est-ce qu'ils vont penser, papa et maman, si je ne rentre pas au séminaire? Faire très attention là. Il ne faut pas suggérer fortement ou un peu moins fortement aux enfants qu'ils ont la vocation. Je vous en supplie. Ça fait des choses catastrophiques. Ça fait des malheurs. Et pour la famille, et pour l'âme qui a eu cette suggestion. Par contre, alors ce à quoi je vous encourage, là, de toutes mes forces, c'est que vous devez donner l'exemple de parents amoureux de la Sainte Messe. Vous devez donner l'exemple de parents profondément respectueux du sacerdoce. Vous devez donner l'exemple de parents affamés de la Sainte Hostie. Vous devez donner l'exemple de parents qui ont soif de connaître les mystères du bon Dieu, qui ont soif de connaître tout le plan divin. Si vous donnez cet exemple, les vocations écloront nécessairement, si le bon Dieu les appelle. Et il n'y a pas besoin, dans ce cas-là, de leur suggérer qu'ils ont la vocation. Il n'y a qu'à montrer l'exemple et les enfants seront appelés, auront un terrain qui est préparé, un terrain qui est défriché, un terrain qui sera totalement propice à ce que le germe que le bon Dieu a peut-être déposé en eux, le germe de la vocation, s'épanouisse. Alors là, oui, je vous encourage. Mais non, pas d'insinuation, de suggestion de la vocation. L'exemple, oui, je ferme la parenthèse. Il faut quand même arriver à la participation au gouvernement divin. Le bon Dieu vous demande de veiller sur son trésor. Sur son trésor. Sur ses âmes. Elles sont les vôtres, ce sont vos enfants, bien sûr, mais plus que vos enfants, ce sont les enfants du bon Dieu. Ces petites âmes-là qui sont dans un berceau, ces petites âmes qui grandissent, qui deviennent peut-être un peu plus difficiles, appartiennent au bon Dieu. D'une priorité de grâce, d'une priorité de rédemption, d'une priorité qui a coûté le sang de Jésus. Mais c'est à vous qu'est confié ce trésor, qui appartient en propre à Dieu, qui un jour est fait un jour pour rencontrer Dieu, pour voir Dieu face à face. Le bon Dieu vous confie cette tâche qui égale presque celle qu'il a lui-même. Il n'a pas voulu le faire lui-même, il vous a donné la participation à son œuvre de rédemption. C'est le pape Pie XII, il n'est pas canonisé. Dans son encyclique Summi Pontificatus de 1939, les âmes des enfants données par Dieu aux parents, consacrées au baptême par le sceau royal du Christ, sont le dépôt sacré sur lequel veille l'amour jaloux de Dieu. Si vous avez gravé dans vos cœurs de papa et de maman ces phrases qui correspondent au plan de Dieu, alors là, l'éducation changera pour vous. La manière que vous aurez d'appréhender ces âmes, ces petites âmes en formation, doit changer, nécessairement. Ou doit s'améliorer, pas nécessairement une conversion, mais doit s'améliorer, doit avoir le tact qu'a le bon Dieu avec nous, la patience qu'a le bon Dieu avec nous, avec la fermeté qu'il exige. Mais il faut méditer, faire nôtre ces paroles. Ou alors, il disait encore à d'autres reprises, « Dans la famille chrétienne règne l'amour et le respect mutuel. Les enfants, ils sont attendus et reçus comme des dons de Dieu, comme des dépôts à garder avec un soin vigilant. Considérez surtout et avant tout l'âme que Dieu a créée et que la divine bonté vous a confiée en dépôt précieux. » Le même souverain pontife expliquait ensuite aux jeunes mariés la grandeur du sacrement de mariage, par qui la loi nouvelle assure toujours des grâces à la famille. Le sacrement fait du mariage un moyen de sanctification pour les époux et une source inépuisable d'assistance surnaturelle. Par lui, les époux deviennent les collaborateurs du Père dans l'œuvre de la création. Écoutez bien cette phrase. Par lui, les époux deviennent les collaborateurs du Père dans l'œuvre de la création, du Fils dans l'œuvre de la rédemption, du Saint-Esprit dans son œuvre d'illumination et d'éducation. Vous êtes collaborateurs de la Sainte Trinité. Du Père dans la création, du Fils dans la rédemption et du Saint-Esprit dans l'éducation, dans l'illumination. N'est-ce point là, de la part de Dieu, une véritable prédilection, un amour de son cœur, comme le chantait le psalmiste à la vue des pensées du divin cœur au cours des générations humaines? C'est l'introït de la messe du Sacré-Cœur, Cogitationes Cordis Eius. Les pensées de son cœur vont dans les générations. Ce qui faisait dire tout à l'heure que le bon Dieu, au début, a pensé à vous, qu'il a pensé à vous de toute éternité, qu'il vous a appelé de toute éternité à cette collaboration, cette participation. Mais je voudrais terminer en vous citant un texte un peu plus long de Pie XII, un texte de 1941. C'était Saint Robert Bellarmin et Saint Augustin qui faisaient le rapport avec les sacrements, les autres sacrements. Et ici, le pape Pie XII le revoit avec le sacerdoce en particulier. Alors voici ce texte. N'avez-vous jamais réfléchi que parmi les différents états, les différentes formes de vie chrétienne, il n'y en a que deux pour lesquels notre Seigneur a institué un sacrement, le sacerdoce et le mariage. Lorsque le Fils de Dieu daigna s'incarner, la parole du Sauveur de l'humanité ramena le lien conjugal de l'homme et de la femme à sa splendeur première. Les passions humaines avaient causé la déchéance de cette noble institution. La rédemption l'éleva à la dignité de sacrement. Et à ce sacrement, l'union du Christ avec son épouse, notre mère l'Église, que féconde le sang divin, confère une dignité, une grandeur spéciale. Le sang de Jésus-Christ nous régénère dans la parole de la foi et l'eau du salut. Et il donne à ceux qui croient en son nom de devenir enfants de Dieu, à ceux qui ne naissent ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ces solennelles paroles de Saint Jean nous manifestent une double paternité. La paternité de Dieu par la puissance de l'Esprit, de la grâce divine. Eh bien, ces deux paternités, dans le peuple chrétien, marquent du signe du sacerdoce et du mariage les pères selon l'Esprit qui communique la vie surnaturelle et les pères selon la chair qui donne la vie naturelle. Et c'est pour assurer et perpétuer à travers les siècles la génération et la régénération des fils de Dieu que le Christ a institué en faveur de son Église les deux sacrements du mariage et de l'ordre. Deux sacrements, deux paternités, deux pères qui fraternisent et se complètent l'un et l'autre dans l'éducation des enfants, fils de Dieu, espérance de la famille et de l'Église, de la terre et du ciel. Telle est la haute idée que l'Église nous donne du sacerdoce et du mariage. L'Église, cette Jérusalem nouvelle, la ville sainte que Saint Jean vit descendre des cieux, vêtue comme une épouse, parée pour son époux. Quels sont alors les ouvriers qui travaillent à la patiente construction de cette Jérusalem nouvelle? Avant tout, ce sont les successeurs des apôtres, le pape et les évêques, avec leurs prêtres. Ensemble, ils disposent, ils polissent et cimentent les pierres selon les plans de l'architecte. L'Esprit Saint les a établis évêques pour paître l'Église du Seigneur. Mais que feraient-ils bien s'il n'y avait auprès d'eux d'autres ouvriers pour extraire, pour tailler, pour polir les pierres suivant les besoins de l'édifice? Et qui sont donc ces ouvriers, sinon les époux? Ce sont les époux qui donnent à l'Église ces pierres vivantes et qui les travaillent avec art. Ces ouvriers, bien-aimés fils et filles, disait le pape Pie XII, c'est vous. Notez donc bien que votre paternité, votre maternité, ne devra pas se borner à extraire et à réunir péniblement les blocs de pierre brute. Il vous faudra encore les préparer, leur donner la forme qui leur permettra d'entrer pour le mieux dans l'édifice. C'est en vue de ce double office que Dieu a institué le grand sacrement du mariage. Comme l'enseigne le docteur Angélique, saint Thomas d'Aquin, ce sacrement qui a consacré votre union fait de vous les propagateurs et les conservateurs de la vie spirituelle selon un ministère à la fois corporel et spirituel, qui consiste à engendrer les enfants et elle est formée au culte de Dieu. Vous êtes, toujours sous la conduite des prêtres, les premiers et les plus proches éducateurs et maîtres des enfants que Dieu vous a confiés. Dans l'édification du temple de Dieu, qui ne se compose pas de pierres mortes, mais d'âmes vivantes, pleines d'une vie céleste, vous êtes pour vos enfants des précurseurs spirituels, depuis leur berceau jusqu'à l'âge d'homme, et vous devez leur montrer le ciel. Époux chrétiens, vous n'avez pas dans l'Église la simple mission d'engendrer des enfants pour les offrir pierre vivante aux ministres, au travail des ministres de Dieu que sont les prêtres. Les grâces si abondantes que le sacrement de mariage vous communique, vous ne les recevez pas seulement pour rester pleinement et constamment fidèles à la loi de Dieu dans l'auguste moment d'appeler vos enfants à la vie, et pour affronter et supporter avec un courage chrétien les peines, les souffrances et les préoccupations qui accompagnent ce moment et qui le suivent, ces grâces vous ont été données également pour vous sanctifier, vous éclairer et vous fortifier dans votre ministère corporel et spirituel. Car avec la vie naturelle, vous avez le devoir, comme instrument de Dieu, de conserver et de contribuer à développer dans les enfants qu'il vous donnera la vie spirituelle qu'ils reçoivent au baptême. Aux enfants nouveau-nés, donnez aussi, comme le disait saint Paul, le pur lait spirituel, afin qu'il les fasse grandir pour le salut. Faites-en des pierres vivantes du temple de Dieu, vous qui, selon la parole de saint Pierre, formé par la grâce du mariage, un temple spirituel, un sacerdoce saint. Dans la formation chrétienne des petites âmes que Dieu vous confiera, une part vous est réservée. Un ministère dont vous n'avez pas le droit de vous désintéresser et où personne ne pourra se substituer pleinement à vous. Les petits anges que le ciel vous donnera, conservez-les pour le Seigneur, pour sa céleste Jérusalem et pour son Église. N'oubliez jamais qu'auprès du berceau doivent se tenir deux pères et maîtres, l'un naturel et l'autre spirituel. Selon les dispositions ordinaires de la divine providence, les âmes ne peuvent parvenir à une vie chrétienne et au salut hors de l'Église et sans le ministère des prêtres que le sacrement de l'ordre a préparé. De même, ne l'oubliez jamais, les enfants ne peuvent pour l'ordinaire grandir dans la vie chrétienne que dans un foyer domestique et où des parents unis et bénis par le sacrement du mariage remplissent le ministère qui leur est propre. Vous avez donc un grand et important ministère à accomplir. Je terminerai par les paroles du père de Chivré. Peut-être vous vous en souvenez, j'avais passé assez rapidement la dernière fois sur ces paroles, mais elles résument bien cette grâce du mariage que vous avez reçue pour mener tous les jours une éducation sainte. Je vous les redonne. Nous avons trop perdu le sens et la raison d'être de notre finalité pour sainement juger de l'éducation qui la prépare.